Selon les traditions judéo-chrétiennes, c'est Nemrod, régnant sur les descendants de Noé, qui eut l'idée de construire à Babel une tour assez haute pour que son sommet atteigne le ciel. Descendant de Noé, il représentait donc l'humanité entière et était censé tous parler la même et unique langue sur Terre. Pour contrecarrer leur projet, qu'ils jugeaient plein d'orgueil, Dieu multiplia les langues afin que les hommes ne se comprennent plus. Ainsi, la construction dut s'arrêter et les hommes se dispersèrent sur la terre. Babel, c'est à la fois une tour et une ville, une entreprise collective pour exister. Cette tour n'a pas d'autre but que de donner sens à l'entreprise qu'est la construction de la ville. La ville devient alors un creuset d'humanité. Babel est alors une invitation à l'ouverture à l'autre, qui est différent puisque parlant une autre langue. Au sommet du temple, il existait un théâtre avec un café à l'intérieur. Enfin, c'est du moins ce que nous enseigne l'archéologie. Un café où les gens se retrouvaient pour tenter de se comprendre, pour échanger sur ce qui se passait dans la cité et pour parler un peu de théâtre, accessoirement.
Bonsoir et bienvenue au Théâtre Jean Villard. Bienvenue dans le premier Café Babel de la saison qui a pour thème le rire de résistance. Le Café Babel est un concept de Julien Bouffier, directeur artistique de la compagnie Adesso et Sempre, en résidence pour 2 ans au théâtre. Pendant sa résidence, la compagnie Adesso et Sempre développe son projet sur le rapport entre théâtre et actualité, qui a pour nom Les Témoins. Elle imagine ce nouveau rendez-vous, le Café Babel, comme un temps de rencontre ouvert sur la société, un moment où le théâtre, en dehors des plateaux, cherche une langue pour parler aux autres du monde. Comment échanger ensemble sur le bruit du monde avec des auteurs, des artistes, des chercheurs, des journalistes, et avec vous, public, votre regard, votre parole. Le plus souvent lié à l'actualité de la saison du Théâtre Jean Villard, le Café Babel s'intéressera qu'au théâtre questionnant le réel et l'actualité. Conçu d'abord comme une émission, mais sans radio, nous avons finalement, nous sommes passés aux actes et nous sommes retransmis maintenant sur Divergence FM que vous écoutez actuellement. L'émission est emmenée par Julien Bouffier, metteur en scène, Claudine Moïse, sociolinguiste, et moi-même, directeur du Théâtre Jean Villard. Notre invité aujourd'hui est Daniel Villanova. Nos chroniqueurs, Nourdine Barra, agitateur d'idées, tenté par l'attentat culturel, auteur d'une pièce de théâtre Le Tour de Toi en écharpe, publiée chez De Mins. Abdel Baji, qui est actuellement en recherche en écriture. Michel Raymond, directeur de recherche au CNRS, auteur de nombreuses publications et en particulier d'un livre savoureux sur l'évolution Cro-Magnon toi-même. La musique en live est assurée par le Skeleton Band.
Pour nourrir notre projet des témoins, questionnant les rapports entre théâtre et actualité, dont nous avons montré le premier épisode manifestement il y a une quinzaine de jours au Théâtre Jean Villard, nous sommes partis une semaine au Caire pour rencontrer des témoins de leur révolution. Je n'étais pas allé au Caire depuis une dizaine d'années et je ne voyais pas vraiment de différence, à part l'installation de petites échoppes sur la place Tahrir revendant des souvenirs de leur révolution. J'ai habité adolescent au Caire. Et je revenais sur les traces de ce moment particulier. Cette période a été marquée par les fameuses noctas égyptiennes. Mais qu'est-ce qu'une nocta ? La nocta, c'est une blague, de toutes sortes, hein, comme les blagues que nous faisons hein, sur les Belges, les blondes ou je ne sais qui. Le sujet des noctas égyptiennes est chargé de haine de soi mêlée à une profonde sympathie pour ses propres défauts que la pudeur impose de manifester sous forme de dérision. La nocta égyptienne est comme un excès de lucidité, en fait. Si dans un café, un Égyptien commence à raconter une nocta, ça peut durer toute la nuit. Une nocta répondant à une autre, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre. Enfin, son apparition en Égypte date a priori de l'occupation ottomane, mais là, personne n'est vraiment d'accord là-dessus. Parmi les célèbres, on racontait juste après la guerre des Six Jours contre Israël. Alors, et si la guerre des Six Jours avait duré 8 jours, qu'est-ce qui se serait passé? Ben, l'Égypte aurait envahi la Libye. Enfin, bon, moi, j'avais entendu plus jeune hein, des autres comme ça, nocta, comme par exemple celle des chars soviétiques, hein, puisque donc l'armée égyptienne était livrée de chars soviétiques, hein, puisque c'était les alliés des soviétiques. Mais seulement, apparemment, ces chars soviétiques n'avaient été livrés qu'avec des marches arrière. L'invasion du Sinaï par Israël a été aussi l'occasion de nombreuses noctas, dont celle-ci. Il y a eu 3 grands généraux dans l'histoire. Kutuzov, ce général russe qui a reculé avec son armée devant Napoléon et qui a attendu l'hiver glacial pour écraser l'armée napoléonienne. Il y a Djoukov, ce général soviétique, qui a fait la même chose, a reculé devant l'armée hitlérienne pour attendre l'hiver et laisser l'armée allemande mourir de froid. Et enfin, ce général égyptien qui a fui devant l'armée israélienne, abandonnant le Sinaï pour attendre l'hiver. Mais la nocta est typiquement une arme de résistance contre un État oppresseur. Sous Nasser, par exemple, le premier président et général égyptien qui a chassé les Anglais d'Égypte, père du panarabisme, il existait une cellule spéciale dans les services secrets qui était chargée de recueillir les noctas du moment. Et il paraît que ils se bidonnaient de rire en écoutant les rapports. Mais depuis deux ans, l'Égypte ne blague plus, ou ne blaguait plus. Beaucoup de grèves, de manifestations dans tout le pays jusqu'au 25 janvier 2011, premier jour des manifestations à Tahrir. Et si les noctas ont disparu pendant la révolution, c'est que les noctas, ce n'est que de la résistance passive. C'est avant l'action. Alors maintenant, enfin pendant la révolution, place Tahrir, les noctas devenaient des messages sur des pancartes, comme cet homme portant ce slogan « Moubarak, va-t'en parce que je commence à avoir mal au bras ». Et maintenant, la chronique de Nourdine Barra avec ce soir Abdel Baji.
Le rire de résistance. Non, ça ne me parle pas. Moi, je revois des figures de grands résistants en tout genre, toutes les résistances, avec leur air sérieux et ça me paraît plus juste, plus vrai. Non, le rire comme corps d'armée, non, j'y crois pas.
Rire pour se donner du courage, pour dédramatiser. Se jouer du sort, le braver. Moi, riant, Nourdine, riant.
Non, on rit pas à l'ennemi, on rit pas vers l'ennemi. C'est de l'arrogance. Et l'arrogance n'est pas dans le camp des justes. Ou alors rire. Rire parce qu'on n'est pas beau quand on rit. On est animal. Et animal, plus près de mordre encore. Et si rire, c'était y aller avec les dents.
Ne pas rire. Ne pas rire. À trop rire, on y laisse un peu de sa dignité. Rester digne. Donne plus à craindre à l'autre en face. Non. Surtout ne pas rire, Nourdine.
Ouais, mais rire, c'est aussi obliger l'autre à venir nous décrocher. Nous décrocher haut. Faire comprendre ou faire croire, ruse de guerre, que le moral est bon, que le moral est haut. Alors, rire, ouais, pour faire douter de leur supposée force. Leur faire douter de nos supposées faiblesses, ouais. Ouais, rire.
Les politiques, les décideurs, je ne sais qui encore, rient, plus fort encore qu'on ne peut le faire. Ils se rient de nous. Rire ne produit plus de contraste. Les salauds applaudissent Coluche. S'assoient au théâtre pour écouter Villanova. Les salauds rient aussi.
Et ouais. Mais rire, c'est respirer. Rire, c'est respirer. Alors rions comme eux le font. Réglons-nous en métronome, trouvons le rythme de leur respiration. Voilà. Pour mieux frapper, pour toucher juste à l'estomac, pour leur couper le souffle. Rions comme eux.
Non. Là, c'est grave. On ne rit pas quand c'est grave.
Ouais, on rit dans les tranchées, ouais. Mais on rit de la balle passée tout près. On rit pas du tireur, hein. Tu remarqueras. Enfin, on l'a vécu. Ouais. On vit de ce qu'on subit de sérieux. Pas de celui qui nous le fait subir. Ouais. Ouais. Rions ici, quoi. Rions pas là-bas. Ouais. Mais ici, spectateur de l'horreur. Non. Je ris pas. Non.
Attends. On n'est plus dans l'horreur, là, Nourdine. Ça y est, on a atteint l'absurde. Rions.
Abdel, c'était en primaire, à Barry. T'étais à Barry aussi ?
Non, moi j'étais à Oxford, l'école qui est juste en face.
C'était à Barry, je me souviens, c'est ma première bagarre. J'en ai pas eu beaucoup, hein, mais c'est la première bagarre. Et voilà, il y avait un petit qui se faisait embêter, enfin petit, aussi petit que je l'étais, hein, qui se faisait embêter par Saïd, qui est très bon ami aujourd'hui. Le petit m'a regardé et m'a dit il m'embête. J'ai pris ma veste et je lui ai foutu dessus.
Ça, c'est ton côté un petit peu justicier, ouais. Ça. Ouais,
un réflexe. Ouais. Il m'a commandé ça et je l'ai fait. Saïd s'est relevé. Il m'a dit, parce qu'il était au sol, il s'est relevé. Il m'a dit je suis pas un porte-manteau. Et on s'est mis à se battre. Tu vois, ça a duré longtemps parce qu'on était très loin des profs, tu sais, de leur parade au milieu de la cour. Ils sont revenus, on nous a séparés, on était l'un face à l'autre. Je voyais son sang à lui, je voyais pas le mien. Ça a duré longtemps, on se regardait, comme ça on était séparés, ça avait l'air de durer une éternité. Et parce que je me sentais obligé de faire quelque chose, j'ai souri d'abord. Et puis après j'ai battu des sourcils, tu sais.
Montre-moi.
C'est pour énerver comme ça, comme tu fais ça. Tiens, j'ai fait ça, il a voulu m'accompagner là-dedans. Il a souri d'abord. Premier battement de sourcils, les deux. Deuxième battement de sourcils. Et au troisième, il s'est mis à pleurer. Jusque-là, je ne savais pas ce que je lui avais fait comme mal. Il ne savait sans doute pas ce qu'il m'avait fait comme mal. Mais tu vois, le pleur, le rire s'active par la même corde, quoi. Il a voulu jouer à ça, quoi. Et ça a révélé ce qu'il y avait derrière, quoi. En fait, il était démoli, quoi. Et il a pleuré. Tu vois, il n'aurait jamais dû rire. Il a perdu. Il n'aurait pas dû rire.
Mais si on gagne, on rira encore ?
Moi, si on gagne, j'irai pas rire. Surtout si la victoire et cette chose acquise était chose due. Pourquoi j'irai rire ? Je ramène juste chez moi ce qui était un manque et qui est souvent un trop-plein chez l'autre. Non, c'est légitime, je ris pas, non.
T'es déjà allé au Mouton avec ton père, à l'Aïd ? À l'Aïd ?
Oui,
à l'Aïd.
C'est bientôt l'Aïd, oui. Ouais. J'y vais plus depuis un petit moment, mais ouais.
Parce qu'il y a une chose que j'ai remarquée. Tu sais ce que... Je ne sais pas si tu as vu, mais la tête et les pattes, toujours, on les mettait de côté.
Ouais. Ah, je me souviens quand mon père tournait la tête comme ça, 180 degrés pour la décrocher. Ouais.
Et tu as vu qu'il y a des petits feux, ils font des petits feux.
Ouais.
Et où c'est qu'on met la tête ?
Où c'est qu'on met la tête ? Mon père, oui, il l'a posé sur une pierre. Je me souviens qu'il essuyait son couteau sur le museau du nez, enfin le museau du mouton. Quoi.
Parce qu'il y a une expression qui, en arabe, qui se dit « dahka rasm shawot ». Ça veut dire « le rire de la tête brûlée ». Et j'avais beaucoup entendu cette expression, mais je ne comprenais pas à quoi elle faisait allusion. Et en fait, la tête, on la met dans le feu, pour enlever plus facilement les poils. Et donc, au fur et à mesure que la tête brûle, je vois, il y a les lèvres du mouton en fait qui remontent et ça lui fait un peu comme un sourire.
Ah oui, oui.
Et ce même sourire, je l'ai vu dans mon quartier quand des amis qui se sont fait arrêter, je les ai vus sur le capot de la voiture avec les menottes. Et avec ce même sourire pour pas perdre la face, Mais au fond, on sentait que c'était foutu.
Écoute, si le mouton, sa tête peut rire encore loin de son corps, comme ça, dans les flammes. Hein. Ouais, rions peut-être. Sourions, au moins, tout au moins.
Merci.
Merci.
Dans sa chronique, Claudine Moïse aborde le thème du rire de l'extrême. Dans quelles conditions peut-on rire ou plus rire ?
Merci Luc. Je lisais l'autre jour dans le train une interview de Fred, vous savez, Omar et Fred, beau gosse de notre jeunesse comique. Quelque temps auparavant, j'avais entendu une promotion du film Beurre sur la ville. Beurre ou peur sur la ville ? Beurre sur la ville. Ce qui a retenu mon oreille, ce sont les commentaires à chaque fois des uns et des autres. Ce qu'il disait, c'est que quand ça devient trop dur, parfois en banlieue, parfois ailleurs, il faut rire pour se sauver. Alors, se sauver, ça ne veut pas dire fuir, mais ça veut dire se mettre à distance des douleurs et se mettre à distance de ce qui fait peur. On rit de ce qui fait peur. Alors, le rire, c'est peut-être précisément ce moyen de convertir quelque chose qui fait peur en quelque chose qui fait moins peur. Olivier Mongin a écrit un livre qui s'intitule « De quoi rions-nous ?» et il dit ça. Je me suis dit « Tiens, celui qui fait rire va transformer la peur en un rire libératoire et cathartique. » Alors, je suis partie de là et je me suis dit « Le rire est là pour déjouer la peur. » Mais quelle peur, en fait ? Nos lâchetés, nos vides, nos manques, comme le dit Fellaini, mais Daniel, qui est là, Daniel Villanova, pourrait le dire aussi. Le rire n'est pas un mécanisme nerveux qui acquiesce et qui va dire « Ouais, bravo, je suis d'accord hein, !» Voyons, on est au théâtre. Non, c'est une réaction qui se déclenche quand le spectateur se sent percé à jour et se dit « Merde, je suis découvert !» Il a deviné que moi aussi, je suis un lâche, que moi aussi, j'ai des préjugés, j'ai des cachotteries. En fait, peut-être c'est ça. Le rire est un des stratagèmes les plus géniaux que l'homme invente pour survivre au désespoir. Et ce désespoir, ce serait peut-être aussi le désespoir de la médiocrité de notre humaine réalité. Il s'agit alors de rire de soi avant de rire des autres, de ne pas rire de soi, enfin de rire de soi et avant de rire des autres, de rire de notre situation, parfois désespérée. Mais pour que ça marche, il faut rire ensemble. On ne va pas rabaisser l'autre. On débusque nos propres travers, nos difficultés de vivre. Alors, je me disais, tout est là. Que l'on ne pourrait rire que lorsqu'on partage nos malheurs d'humanité, parce qu'il faut qu'il y ait catharsis. Dans La vie est belle, vous savez, le film de Roberto Benigni, à un moment donné, Guido, donc, qui est joué par Roberto Benigni, le père, se propose dans le camp de concentration de traduire les règles du camp devant l'officier SS alors qu'il ne parle pas allemand. Il va transformer une situation assez insoutenable pour son fils qui est détenu avec lui, qui a 6 ans ou 7 ans, en grand jeu avec des règles. Le but sera de gagner un char d'assaut et donc de transformer la situation par le rire. Mais un rire de dérision, de dédramatisation. Et là, c'est sans doute possible parce qu'il y a un public, les prisonniers, entre autres, et qui participent, eux aussi, ils participent donc tous ensemble d'une mise à distance de la peur et de soi-même dans cette peur. Alors, je me suis dit, oui, d'accord, on va déjouer la peur, mais jusqu'où ? Face à la mort, c'est possible aussi ? Comme dans le camp de concentration. Puis j'ai tiré le fil et je me suis dit, on connaît les bons mots face à l'échafaud, il y a des livres entiers là-dessus. Et dans un récent album, Philippe Guéluc, vous savez, le dessinateur, représente un homme, le téléphone portable à la main, la tête sur le billot, aux côtés d'un bourreau, la main posée sur sa hache. Et il dit, allez, je vais devoir te laisser, on me fait signe que ça va couper d'un moment à l'autre. On se donne, on peut se donner en scène face à la mort, mais il faut qu'il y ait du public, qu'on soit ensemble. Et alors, le rire de l'extrême, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut rire jusqu'au bout? Jusqu'à la fin? Et je pense que là, la situation devient différente, devient autre. Quand il n'y a plus de témoins, quand il n'y a plus de public qui participe justement de cette catharsis. Et c'était pour, sans doute pour ça qu'il était difficile de rire. Il y a une très belle interview de Primo Levi à ce sujet. Donc il était difficile de rire comme de se suicider dans l'extrême des camps d'extermination. Primo Levi disait qu'on ne se suicidait pas dans les camps d'extermination. Non, parce qu'on n'en avait plus la force. Non pas parce que l'on espérait encore, mais parce qu'on avait perdu sa condition d'homme. On n'avait même plus peur. On n'était même plus désespéré. Donc on ne pouvait même plus rire, on ne pouvait même plus mourir. Pour se suicider et pour rire, il faut rire ensemble. Il faut encore avoir un minimum de lien, de regard humain vis-à-vis des autres et de soi-même, de ceux qui participent, qui constituent un public comme au théâtre. On ne peut pas rire seul, on ne peut rire vraiment qu'ensemble.
L'un était maigre, l'autre était gros, et à la traîne, et chantait. L'un c'était Jim et l'autre c'était Joe. À coup sûr dans la cale j'ai vu un marin français qui sifflait. Avant d'être sobre et marin, il faut chasser le pied à terre. Et des vieux et des rats, ou l'inverse à l'unisson. Crois-tu au rêve américain? Ça n'est pas vraiment fait pour toi, gamin. Des castrats anglais ambiés qui sifflent.
Oh, I swear I seen the light. Yesterday I was upstairs. Oh, I swear I seen the light. Oh, yesterday I was
we silencio, señor. Ça remuait des halles immigrées par ici. Mais l'un c'était maigre, et l'autre c'était quoi déjà?
C'était le squelette en bande avec Rangen Raffio. Alors, le squelette en bande sera avec nous en fait à la plupart des cafés Babel parce que nous préparons ensemble une création.
Merci Julien. Nous avons voulu avoir d'autres versions ou d'autres regards sur le rire et c'est pour ça que j'ai fait appel à Michel Raymond. Michel Raymond qui est évolutionniste et donc c'est le moment de l'œil de l'évolutionniste.
Alors, pour comprendre un comportement humain, comme le rire ou l'humour, la première chose à faire, c'est de voir si on a affaire à une explication générale ou locale, donc de voir quelle est l'étendue de ces manifestations de rire et d'humour. Bon, alors, les anthropologues nous disent qu'ils ont rencontré du rire et de l'humour dans toutes les sociétés qui sont allés voir, avec des formes parfois un peu différentes, mais apparemment, au moins dans l'espèce humaine, c'est quelque chose d'universel. Alors ensuite, on peut demander aux primatologues, et effectivement, les primatologues, comme Jane Goodall, vous savez, qui a beaucoup étudié les chimpanzés, nous décrivent un rire chez les chimpanzés. Alors, ce n'est pas le même rire très sonore, hein, c'est plutôt des espèces d'allaitements, inspiration, expiration successifs. Mais ce rire est exactement homologue au nôtre. Et quand les chimpanzés se chatouillent entre eux, c'est d'ailleurs les mêmes zones que chez l'homme, et ben, ils rigolent à la façon chimpanzé comme les hommes rigolent à la façon humaine. Donc, on connaît le rire chez les chimpanzés, chez d'autres grands singes, chez le gorille, chez des macaques. Donc, le rire est assez général chez les primates. Alors, quand il y a rire, il y a forcément par derrière humour. Alors, est-ce qu'il y a de l'humour chez les chimpanzés? Alors, il y a des primatologues qui racontent quelques blagues de chimpanzés. Donc, par exemple, il y a un chimpanzé qui était connu pour... quand il avait quelqu'un qu'il ne connaissait pas, un visiteur dans sa cage, hein, c'était, il se mettait à lui uriner sur la jambe et il éclatait de rire. Alors, apparemment, c'est une blague subtile chez les chimpanzés, ce genre de choses. Bon, on ne s'attend pas à ce que l'humour soit universel, forcément. Il est localement adapté, même si on les cultures, il est différent. Et là, ben, suivant les espèces, il est aussi différent. Et d'ailleurs, quand le primatologue raconte cette blague de chimpanzé à ses étudiants, en général, ses étudiants éclatent de rire, ce qui montre que l'humour peut être compris entre espèces différentes, ou au moins entre étudiants de première année d'université et chimpanzés. Bon, alors, l'humour a une ontogénie, hein, dans l'espèce humaine, c'est à peu près vers 4 mois, bon, on connaît des cas plus tôt, mais c'est vers 4 mois que le rire se manifeste face aux chatouilles, etc. Et à partir de 7 mois, l'enfant rit quand il a une situation très inattendue. Et en fait, en riant, il montre qu'il avait compris que la situation était inattendue. Donc c'est un peu un signal externe d'une certaine capacité cognitive qui est forcément interprété par les parents et l'entourage d'une certaine façon. Donc c'est vraiment un signal de quelque chose, d'une capacité cognitive qui se développe. Alors, bon, et chez le chimpanzé, c'est vers 3 mois, il commence à rigoler. Et d'ailleurs, les zones de chatouille chez les chimpanzés, entre l'enfant et l'adulte, restent les mêmes. Donc les vieux adultes rient aussi bien que les jeunes enfants, ce qui est peut-être moins vrai dans notre espèce. Donc non, forcément, il y a quelques différences. Alors, maintenant, on voit donc qu'on a affaire, probablement, si on veut comprendre l'humour, à une explication qui est plus générale que juste la société humaine. Donc, alors, les grands singes et les singes et les primates sont tous en société, on se dirige vers une explication sociale. Effectivement, hein, l'humour nécessite de n'être pas seul. Alors, Actuellement, l'humour est vu comme une capacité à susciter des représentations inattendues ou surprenantes dans le cerveau de l'auditeur. Et donc le rire est l'indication que ces représentations inattendues ont été comprises. Donc l'humour suppose une capacité à se représenter ce que l'autre peut se représenter. Pour susciter une représentation inattendue, alors il faut qu'on soit capable de se représenter sa situation, mais être capable de se représenter comment l'autre va se la représenter. Donc en fait, c'est une capacité cognitive assez élaborée qui est valorisée dans les sociétés sociales, les espèces sociales. Et il y a aussi une très forte différenciation entre hommes et femmes dans le rire. Souvent, les hommes rient plus et les femmes sourient plus, par exemple. Et l'humour est extrêmement utilisé et extrêmement important dans les choix de partenaires. Et bon, mais ceci, et ce qui est extrêmement important dans les espèces sociales, hein, les choix de partenaires, ça occupe consciemment ou inconsciemment une grande partie de notre temps. Donc voilà, l'humour est important dans les choix de partenaires, mais pour parler plus en détail de ça, c'est une autre histoire qu'il faudrait développer dans d'autres lieux.
D'autres cafés Babel.
Ou d'autres cafés de Babel. Merci.
Merci Michel. Je cite souvent Staline, ce qui n'est pas commun, avec cette phrase redoutable « Un peuple heureux n'a pas besoin d'humour ». Et on peut légitimement se demander si l'histoire ne se répète pas avec les licenciements qu'on a connus sur France Inter. On peut se demander si la chasse aux narquois est ouverte. L'humour est-il si redoutable qu'il faille en tarir la source ? On se demande parfois si le rire est encore légitime. Dario Fo nous dit que le rire ouvre l'esprit et les qualificatifs liés au rire sont nombreux. Rire jaune, éclat de rire, humour noir, on parle d'un rire convenu ou d'un rire inconvenant. On parle de pisser de rire, comme vient de le faire Michel. Plus inquiétant, rira bien qui rira le dernier et j'en passe. Le rire est souvent l'arme des pauvres et des opprimés. Je me souviens d'un voyage en Hongrie à la fin des années 70 où le traducteur nous disait « Oui, l'URSS est notre grand frère, la locomotive des pays de l'Est et nous en sommes le tandem » pour bien signifier qu'ils alimentaient la locomotive. Le rire est aussi une soupape, une diversion dans la marche inexorable du temps. Et si le rire était quelque chose de très sérieux qu'il ne faut surtout pas confier aux humoristes. Bonsoir. Bonsoir Daniel Villanova.
Bonsoir.
Nous avons le plaisir de t'accueillir Bonsoir. Depuis une semaine et pour une semaine encore avec les quatre saisons.
Il manque deux.
Il manque deux, donc le printemps aujourd'hui et demain et l'été jeudi et vendredi. Sur l'engagement, tu te revendiques de la mouvance anarchiste. Quel rapport entre l'anarchie et l'humour ?
C'est une interview. Hein. Quel rapport entre l'anarchie et l'humour ?
L'anarchiste étant plutôt vu comme un dogmatique, donc pas forcément comme...
Oui, bon, enfin, oui, il est vu comme un dogmatique. Bon, beaucoup de choses sont vues de façon souvent erronée et à côté de la plaque. Ça dépend qui le regarde, de quel point de vue on le regarde, etc. Oui, effectivement, il y a, en ce qui me concerne, pour moi, il y a beaucoup de rapports entre l'anarchie et l'humour, dans la mesure où l'humour, le rire, c'est quand même une façon, disons, privilégiée de désacraliser, on disait tout à l'heure, il ne faut pas rabaisser. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas d'humilier, mais rabaisser, c'est autre chose. Dans toute l'œuvre de Rabelais, il y a un mouvement de rabaissement de l'autorité, de ce qui représente ce qui domine, ce qui est en haut de la société. Rabelais, les humanistes s'emploient, Érasme et avant eux, dans l'Antiquité, d'autres auteurs dramatiques sont employés à rabaisser les gens qui sont indûment au-dessus des autres. Voilà, je crois que un des points fondamentaux de l'humour, c'est quand même de désacraliser dans la, dans l'esprit des gens qui écoutent un spectacle de théâtre, puisqu'il s'agit de ça, de désacraliser l'idée que nous serions dans une société extrêmement hiérarchisée, où celui qui est au-dessus de nous, eh bien, il y est parce qu'il le mérite. Très souvent, ça n'a rien à voir avec le mérite, ça a à voir avec la manipulation d'esprit, ou ça a à voir avec beaucoup d'autres choses, mais pas avec le mérite. Donc l'humoriste, lui, en montrant que la hiérarchie n'a souvent aucun sens, disons, profond, humainement justifiable, il contribue à cette... À créer chez le spectateur un sentiment qui tend vers l'égalité, vers plus de justice. On disait tout à l'heure, M. Raymond disait tout à l'heure, qu'on ne connaissait pas de peuple qui ne rit pas. J'en connais un. C'est pour ça que je suis venu. Non, mais c'est notable. Chez les Yamana de la Terre de Feu, lorsqu'on a découvert ce peuple qui était donc un peuple qui était en Patagonie, hein, on appelait la Terre de Feu parce que quand on a découvert ce continent, c'était des gens vivaient dans des conditions extrêmement rudes, parce que, je vous passe les détails, la Terre de Feu, c'est les glaciers, les neiges toute l'année, etc. Un froid très 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 intense. Et ces gens-là étaient donc des gardiens du feu qui ne s'éteignaient jamais. Ils transportaient même dans leurs pirogues, etc. Toujours ce feu était auprès d'eux. Et c'est pour ça qu'ils voyaient des feux qui se déplaçaient sans arrêt, et on appelait ça Terre de Feu. Ces gens vivaient dans des conditions tellement, tellement rudes, tellement précaires, tellement liées, tout le temps en train de se déplacer à la recherche des phoques, des éléphants de mer qui leur servaient de nourriture et de vêtements, parce qu'ils s'enduisaient avec cette huile. Cette recherche permanente des troupeaux d'éléphants de mer, ce souci permanent de chercher la nourriture, de chercher la graisse qui allait les protéger du froid, de bâtir des cabanes en feuilles, etc. C'est cette survie, ce souci permanent de survie faisait que ce peuple-là, lorsqu'on les a découverts, ne riait pas. Ce qui fait que Darwin pensait qu'il avait trouvé là l'échelon, le maillon manquant entre l'animal et l'homme. Pendant un certain temps, on a pensé que le Yamana était ce maillon manquant. Après, on a découvert que non, bien entendu. Mais tout ça pour dire qu'ils ne riaient pas parce qu'ils étaient trop occupés par la survie. Donc, ce qui veut dire que le rire est aussi lié à un certain bien-être et une certaine conscience de ce bien-être. Donc, il est bien lié à l'évolution sociale de l'homme. C'est-à-dire que plus l'homme va vers plus de justice sociale, vers plus d'égalité sociale, et plus il va être amené à rire. Aujourd'hui, on le voit dans les conditions où le capitalisme nous laisse, aujourd'hui, que ce soit dans des pays comme la Grèce et l'Espagne, mais même ici, les gens rient de moins en moins, ce qui fait qu'on a besoin de professionnels pour les faire rire. Bon, moi, je ne m'en plains pas, vous pensez bien. Mais en fait, c'est quand même pas normal que des gens, aujourd'hui, de plus en plus de gens, disent « Oh, monsieur Lannoy, qu'est-ce que ça fait du bien de rire, mais on rit plus. Oh, pendant une semaine, je suis mieux avec mon mari, et on reviendra vous voir, et on vient vous voir une fois par mois, parce qu'on rit pas assez, ça nous fait tellement de bien. » C'est pas normal qu'on ait à faire appel à des professionnels, même s'ils en tirent un substantiel profit, pour que les gens rient. Ça veut dire qu'il est lié à la justice sociale. C'est pour ça que le rire et l'anarchie sont liés.
Il est vrai que tu dis... Il est vrai que tu dis aussi que si tes camarades arrivaient à mettre en place une société anarchiste, tu prendrais sans doute le mec qui...
Exactement. Oui, parce qu'il faut toujours être critique, quoi. Il faut toujours être du côté de ceux qui n'ont pas le pouvoir. C'est mon cas.
Pour un théâtre de la lutte, je te cite, « Le théâtre prend tout son sens dans la lutte. » Pourquoi ?
Oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai remarqué par ma propre expérience et ensuite par la réflexion que ça m'a suscité. Et je suis parti du théâtre de Dario Fo. Mais c'est une idée qui peut être généralisée. Dario Fo, pour prendre un exemple typique du théâtre militant, du théâtre politique et surtout du théâtre basé sur l'humour, Dario Fo a écrit la plupart de ses œuvres dans une situation sociale de l'Italie, des années de plomb notamment, qui était une situation sociale extrêmement tendue. Et ces spectacles étaient faits au milieu de dans cette situation et répondaient à un besoin d'un peuple en lutte, en recherche d'une issue sociale aux problèmes que le capitalisme posait. Donc, lorsque Dario Fo jouait ces spectacles-là, c'était non seulement dans des théâtres institutionnels parfois, mais c'était pouvait être sur des places publiques, dans des hangars, dans des squats qu'il investissait avec ses camarades, et il jouait devant un public d'ouvriers qui occupaient des usines en grève, devant quand il a créé Faut pas payer, c'était au milieu d'un mouvement de femmes qui, pour lutter contre la vie chère imposée par l'État italien, envahissaient les supermarchés et sortaient gratuitement tout ce dont elles avaient besoin pour nourrir leur famille et surtout leurs enfants, à savoir le lait, le pain, le beurre, des denrées essentielles qui avaient pris qui avaient connu des augmentations considérables. Donc c'était un mouvement social, et ce théâtre de Dario Fo en rendait compte. Non seulement il en rendait compte de ce mouvement social, mais il le soutenait, il l'illustrait, il le montrait, et en même temps évidemment il récoltait des fonds pour en solidarité avec les mouvements de grève. Donc le public qui reçoit le public en lutte qui reçoit un spectacle de théâtre d'humour politique est dans un état d'esprit où la moindre phrase fait mouche. J'ai remarqué que les spectacles en général, lorsqu'ils sont donnés dans des conditions disons de paix sociale, on va appeler ça la paix sociale, encore que c'est une guerre larvée toujours, il n'y a jamais de paix sociale. On le voit bien aujourd'hui avec les indignés à Madrid. Lorsque le public vient uniquement consommer du rire, il a une autre lecture tout à fait différente du spectacle. Il m'est arrivé de jouer dans des squats occupés, il m'est arrivé de jouer sur des terres occupées par des paysans, comme ça, au débotté. Pour seul décor, un vieux tracteur derrière moi qui me servait un petit peu d'appui devant 300, 400, 500 personnes. Je peux vous assurer que le spectacle qui est donné prend un tout autre sens. Et les flèches qui sont décochées à cette occasion-là prennent tout leur sens. Voilà. C'est pour ça que, effectivement, le théâtre politique n'a de sens, ne prend en tout cas tout son sens, que lorsque le public est aussi politisé, est aussi en lutte. Voilà. Et il faut qu'il y ait un accord entre ce qui se passe sur la scène et ce qui se passe dans la salle. Sinon, on est en décalage.
Pourquoi choisis-tu tes personnages chez, entre guillemets, les petites gens et non pas chez les gens de pouvoir?
Bon,
c'est Claudine hein, qui me l'a soufflé.
Oui, oui, non, mais c'est... oui. Parce que d'abord, bon, je parle que de ce que je connais. Or, les gens de pouvoir, plus j'en suis loin, mieux je me porte. D'ailleurs, je me porte très bien. Merci. Et puis, je trouve que pour que le rire a besoin de, non seulement de justice, d'un désir de justice, comme je l'ai dit, mais il a besoin de justesse. C'est-à-dire, pour éviter la caricature ou l'exagération, pour éviter d'humilier le personnage qu'on comprend, il faut qu'on le connaisse parfaitement. Et le fait de prendre des gens de village de la région où je suis né, et où j'ai vécu les trois quarts de mon existence, eh bien, ça me permet justement de connaître ces personnages-là à un tel point que j'évite l'humiliation, le rabaissement, justement, qui ne serait pas souhaitable, quoi. Voilà. Quant aux gens de pouvoir, disons, j'essaie de les rabaisser à un plus juste niveau, c'est-à-dire de les mettre à la place où ils sont. Je fais tout ça par la voix de mes personnages. Voilà. Ils parlent pour moi, quoi. Comme ça, moi, je risque rien. Vous comprenez ? C'est pas moi, c'est eux, quoi.
Merci Daniel d'avoir accepté de répondre à ces questions. Tu es sur scène dans une heure, donc je te laisse rejoindre la loge. Merci.
Merci, merci à tous.
Spectacle pour la danse du diable, je me demandais si les gens allaient rire, tout simplement, qui allait rire, et en fait j'avais dans l'idée, c'est curieux, que ça ferait sourire plutôt, mais que ça ferait sourire vraiment les gens très proches des comédiens, je pense que c'est des comédiens un peu de mon milieu, de genre la cartoucherie, etc. Vraiment, quand j'ai commencé à jouer la Claudine, la mère avec le petit garçon 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai entendu les gens rire. C'est comme, en plus c'était au terme d'un, ça a duré plus d'un an la préparation, donc j'étais vraiment raide, j'étais comme un haricot, j'avais plus d'argent, j'étais vraiment, c'est comme les premières gouttes de pluie, quoi, après la sécheresse totale qui arrive, où on n'y croit plus, on y est, j'ai dit putain il rit, je me suis dit merde putain il rit, j'y avais pas pensé, franchement j'avais pas pensé qu'ils allaient rire, vraiment, et j'ai commencé à attendre, et puis après ils étaient morts de rire, et là c'était bon, une délivrance, quoi, j'ai dit. Dans ma tête, quand on joue, on pense à plein de trucs, en fait. Et dans ma tête, j'ai lié ça à l'âge d'or, au spectacle du Théâtre du Soleil. Je me suis dit, putain, j'ai fait un spectacle comique, mais oui, bien sûr, je suis con. Et c'est drôle que j'y ai pas pensé, parce que quand j'ai improvisé, par contre, devant Jean-Pierre Taillade et Clémence Massard, ils étaient morts de rire, c'est-à-dire, c'était ça qui déterminait le travail. Quand Taillade, il a arrêté de rire, je disais, tu t'emmerdes, il me dit oui. Donc voilà, je changeais de situation, mais la question du rire s'est posée, après on est rassuré, mais s'est posée tout le long du roman d'un acteur, jusqu'à même le dernier épisode, l'épilogue par exemple, qui est une improvisation que j'avais faite 20 ans avant, de Ferdinand tout seul dans les Champs-Élysées qui drague une fille avec une ficelle, et qui en fait cette ficelle il va essayer de se pendre avec. Cette improvisation, quand je l'avais faite, qui a fait mourir de rire Taillade, et j'ai jamais retrouvé l'esprit, la chose qui faisait qu'il riait. Et donc les gens riaient pas ou riaient peu, et ils étaient déçus. Disons, je me méfie d'avoir le terme de résistance aussi, qui est employé un peu à toutes les sauces. La résistance, c'est une histoire tellement tragique et particulière, mais que la. Je suis pas sûr que la notion morale dans le rire vraiment intervienne vraiment, quoi. Je suis pas sûr que ça. Il y a une notion politique comme ça qui. Il y a des comiques, Carl Valentin, ou... bien sûr, il y a des, même dans Brecht, il y a des choses drôles. Hein. Le rire de résistance, ça voudrait dire qu'il y a un rire qui est pur, qui est bien, et un rire qui n'est pas bien. Et en même temps, ce que je dis, c'est... ce que je dis, c'est pire, moi, c'est que 80% du rire, c'est pas bien. Parce que c'est très rare, le vrai rire. C'est une valeur... C'est comme ce qui est vraiment érotique, on peut dire ça pareil. Hein. Si on regarde la production pornographique, si on voulait trouver un film vraiment bandant, ben, il faudra avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Ou trouver vraiment un film où d'un seul coup, oh, merde, ça le fait là, ou oh, putain. Le vrai rire, ça m'intéresse parce que moi j'aime rire, j'aime faire rire dans la vie déjà. Et c'est souvent, ça peut être d'une façon en étant méchant, ça peut être au contraire en étant absurde, ça peut être, mais ça vient toujours d'une chose inattendue.
Je dis que je suis quand même un peu déçu que tu t'en ailles maintenant, Ferdinand. Tu vois, là, maintenant, en pleine bagarre, Touchard. Au moment où j'ai quand même quelques difficultés, quoi. Disons que j'ai connu dans ma vie des moments moins, des moments plus, disons que... Voilà, tu choisis de me quitter dans un moment où je ne suis pas au summum de ma gloire. Ariane, le moment, mais attends. Alors c'est jamais le moment.
Tu salvado, Violeta baja, baja la escalera del amor. Violeta vuele, vuele con su superhéroe. Una, tres, corre, corre, corre. Baja, baja. Sube, sube con su superhéroe. Corre, corre, se andora sin temor. Vuele, vuele tras tu salvador. Baja, baja la escalera del amor. Sube, sube con su superhéroe.
C'était Corré Corré, la chanson.
Ah oui, on a changé. Merci le squeletton, merci Alex, Clément, Bruno. On voulait garder un petit peu de temps pour dialoguer avec vous à la suite de toutes ces paroles qui ont pu être lancées autour de ce rire de résistance. Est-ce que dans le public, des gens aimeraient participer, poser des questions renvoyer la balle.
Comme disait une illustre émission de critique de cinéma et théâtre, le public a la parole.
Attendez. Hop là, il va falloir faire ça en micro parce que comme nous sommes encore à l'antenne, Abdel, viens peut-être, viens avec moi, s'il te plaît. Pardon.
Mais en fait, il ne marche pas très très bien ce micro, c'est ça?
Non, il ne marche pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Si, ça marche. Quel spectacle de Villanova as-tu vu? Quel spectacle de Villanova tu as vu?
Alors, je dois être franc ou je dois jouer un rôle?
C'est comme tu veux.
Alors, je n'en ai vu aucun.
D'accord.
Mais si vous voulez, en fait, ce que j'ai écouté tout à l'heure, le personnage il m'a beaucoup 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 plu. Et pour moi, un artiste il doit faire qu'un avec ce qu'il fait. Donc là, j'ai connu la personne avant de voir ce qu'il fait. C'est super intéressant.
D'accord.
Et du coup, ça m'amène à aller voir.
Très bien, ouais. C'est parfait. Merci.
De rien. De rien.
D'autres réactions? C'est bien, pour une première émission, on va finir presque dans les temps.
Moi, j'avais une question pour Julien.
Oui.
Tout à l'heure, vous parliez de votre voyage en Égypte.
Mm-hmm.
Et comme vous disiez que la lutte faisait aussi partie de l'expression d'un public, je voulais savoir si en Égypte, vous aviez vu des choses particulières sur le plan théâtral ou un non. rire particulier, voilà.
Alors, ils ont donc le théâtre, le cinéma et le cinéma comique est très très important en Égypte. La chanson comique aussi, qui sont un peu des déclinaisons de la nocta égyptienne dont je parlais. Moi, j'ai pas vu de spectacle. Il s'est fait évidemment beaucoup de spectacles après la Révolution qui parlent de la Révolution. Ils ont très envie d'en parler, c'est logique. Et en même temps, on a un théâtre qui est quand même c'est un théâtre d'État, hein. Donc c'est des théâtres d'État avec des acteurs à plein temps et donc qui sont complètement noyautés par le pouvoir. Il y a très peu de théâtres indépendants, très 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 peu. Donc évidemment, je crois que la parole est pas tout à fait libre encore. Hein. C'est pas non plus la joie en Égypte, hein, puisqu'aujourd'hui l'armée a repris le pouvoir. Qu'on attend les élections un peu en espérant qu'il se passera un petit peu quelque chose, mais aujourd'hui ça ressemble quand même à un coup d'état militaire presque. Enfin, la situation d'aujourd'hui, c'est ça.
Moi, je voulais dire que la remarque de tout à l'heure que les hommes riaient plus, donc je voulais dire que la remarque sur le fait que les hommes riaient plus et les femmes souriaient plus, hein, m'a fait beaucoup marrer.
Bon, et eh bien Vraiment. Je crois que nous terminons sur cette saillie. Toi, l'auditeur qui, sans façon, a écouté cette émission, sache qu'elle est publique. Rendez-vous donc le vendredi 4 novembre 2011 à 19h sur le thème de la place de la culture dans la presse, en lien avec le spectacle Instant Critique. Rendez-vous donc au théâtre et sur Divergence FM 93.9. Merci à tous.